BFM Business et Tech & Co présentent Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel.
Bonsoir, bienvenue dans Tech & Co. On est ensemble de 20h à 21h30 avec, comme d'habitude, beaucoup de sujets d'actualité, notamment, tiens, Albert, un nouveau prénom à apprendre, justement. Ça va peut-être être votre compagnon pour vos démarches administratives. Et oui, Gabriel Attal vient d'annoncer cette IA générative au service alors des agents de l'État, mais qui pourra aussi nous servir à nous. Et puis, il y a tout un tas d'initiatives autour de l'IA pour la simplification de l'État. On va en parler, évidemment, avec nos débriefeurs. On parlera également de Spotify qui retrouve un peu de rentabilité là, sur ce trimestre. Et justement, il y a plein de nouveautés sur Spotify. Vous savez, ils essaient de chercher dans le podcast, ils essaient de chercher dans les playlists intelligentes. Voilà l'occasion donc de revenir sur cette application de streaming. Et puis, en deuxième partie d'émission, on parlera de l'Inde. L'Inde, ce sont les élections. Elles ont démarré vendredi dernier. Ça va durer jusqu'au 1er juin, c'est ça. Ils sont des centaines de millions à voter. Et justement, l'Inde et la tech, on en parlait beaucoup quand c'était de l'offshore, mais l'Inde et la tech, ça devient aussi beaucoup de la fabrication de processeurs, du design de processeurs. On parlera bien entendu de tout ça avec un expert qui sera avec nous en plateau. Restez avec nous, 20h, 21h30 sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, on démarre ce débrief avec nos invités. Ce soir, Marjorie Paillon, journaliste. Bonsoir. Bonjour. Marjorie, merci d'être avec nous. Bonsoir. Victoire Rivaton, consultante indépendante, fondatrice de Yo. Bonsoir.
Bonsoir.
Victoire et Frédéric Bianchi, que vous connaissez, journaliste BFM Business. Salut Fred.
Bonsoir.
Et bienvenue à tous les trois. On va parler, alors il y a plusieurs sujets d'actualité. Ce soir, on va démarrer peut-être par Gabriel Attal, qui vient d'annoncer la création d'une IA. À la française, alors elle s'appelle Albert. On pourra effectivement, Frédéric, le suggérer juste avant le lancement de l'émission, de recevoir l'un de ses concepteurs. Mais ce que je vous propose tout de suite, on va écouter ce qu'en dit Anthony Morel. C'est justement, il parle de cette IA au service des Français, 100% souveraine. C'est la promesse de Gabriel Attal. Et on écoute le. Ah oui, c'est pas Anthony Morel, c'est Gabriel Attal qui nous raconte justement.
On les confond souvent.
Oui, il était en déplacement ce matin, le Premier ministre, et il en parlait. À Sceaux, justement, on les écoute.
Ma première ambition, c'est de répondre à une transition historique. C'est d'être aux avant-postes d'une révolution. C'est de mettre l'intelligence artificielle au service des Français, mettre l'IA au service de nos services publics. Je le sais, l'IA suscite tantôt enthousiasme, tantôt inquiétude. Et je veux le dire à nos concitoyens, choisissons l'IA, ne la subissons pas. Cette IA sera ensuite transposer à d'autres services publics dès la fin de l'année pour automatiser, par exemple, la retranscription d'audiences judiciaires, le dépôt de plaintes ou les comptes rendus médicaux. Tant et tant d'autres cas d'usage d'IA dans nos services publics verront le jour au cours des prochains mois, de la détection des incendies et feux de forêt par drone augmentée à la gestion RH des personnels de la fonction publique.
Voilà, Gabriel Attal qui annonce ça, donc c'était à Sceaux aujourd'hui, hein, le Premier ministre parlait notamment dans sa simplification de l'État. Tiens, d'ailleurs, demain, nous aurons Bruno Le Maire qui sera en plateau avec Edwige Chevrillon demain en fin d'après-midi, enfin c'est vers 18h30, pour justement parler de simplification de l'État. Qui est Albert, Marjorie ?
Qui est Albert ? Voilà. Eh bien, d'abord, c'est une IA. Oui. Albert est un agent conversationnel qui, dans un premier temps, a déjà été essayé auprès des services de Bercy, justement, pour pouvoir aider les agents du service public, et notamment du fisc, à pouvoir commencer à résoudre certaines questions. C'est un chatbot, en réalité. Hein. C'est une IA générative conversationnelle, ni plus ni moins. Donc, c'est un premier pas, en tout cas, sur, ensuite, l'ouverture de ce robot conversationnel à nous tous ici, contribuables et associés, si j'ose dire, pour pouvoir justement échanger là aussi et simplifier la vie en réalité de ces agents du service public. En fait, il y a deux dimensions. Il y a d'abord la façon dont on peut simplifier la vie des agents, des ministères et du service public, de l'administration, et puis la façon dont on peut nous simplifier la vie à nous, administrés et
citoyens. On va pouvoir poser des questions beaucoup plus simplement qu'en
mais aussi lecteurs et électrices. Mm-hmm. Et ça va être la partie finalement la plus, si j'ose dire, complexe à pouvoir justement mettre en place sur cette simplification par IA de l'État et de l'administration. Évidemment, ça suscite beaucoup de fantasmes sur le vote électronique et la façon dont ça pourrait être géré. Moi, j'ai envie de dire que Gabriel Attal ou Anthony Attal à beau jeu de vendre, si j'ose dire, hein, de faire un peu le service avant-vente même d'Albert et d'une autre IA, d'un autre chatbot qui va s'appeler Aristote, qui lui va intéresser les étudiants pour le coup, de le vendre comme la première, enfin, ou en tout cas, que le fait que la France soit le premier pays de l'Union européenne à arborer cette IA souveraine, en l'occurrence, je l'oublie, qu'il y a peut-être d'autres États membres qui l'ont déjà fait, notamment l'Estonie, et qui le fait depuis très longtemps, 99% des interactions.
On parlera de l'Inde tout à l'heure, même l'Inde, ils ont leur agent conversationnel aussi.
99% des interactions entre les citoyens, le gouvernement et l'administration, en l'occurrence en Estonie, se passent en ligne, et depuis très longtemps. L'Estonie a pris son indépendance en 1991. Dès 1996, ils avaient déjà leur premier service en ligne disponible et opérationnel. Et aujourd'hui, l'Estonie, c'est par exemple un État qui va finalement être agile sur sa politique vis-à-vis de l'intelligence artificielle et des intelligences artificielles. Tous les 3 ans, ils la remettent à jour. Et là, il y a un plan de développement qui va jusqu'à 2030 pour pouvoir ici former les citoyens, les citoyennes alias, qui est fondamental si on veut justement pouvoir utiliser à bon escient ces IA-là.
Alors, il y avait déjà eu une étude qui avait été faite. Alors, ça avait été annoncé par Jean-Yves Guérini en novembre, octobre-novembre 2023. Ouais. Et 70% des agents des services publics ont ressenti un effet positif de l'IA. C'est ce qui se disait déjà à l'époque quand ils avaient commencé à tester, en tout cas sur le millier d'agents qui avaient testé ça à l'époque. Ça va participer à la simplification de l'État. Est-ce que ça va participer aussi à économiser?
Qui dit simplification dit gain de productivité, dit à terme économie. On sait qu'on a entre 10 et 20 milliards d'euros à trouver dans le budget, alors on ne va pas les trouver cette année grâce à Albert, mais en tout cas dans l'optique de transformer l'État, numériser les services de l'État, oui, ça permet in fine d'être plus performant, donc de faire des économies. L'État, il a quand même été assez performant déjà pour développer cette IA, parce qu'on parle quand même de c'est la DINUM, la Direction Interministérielle du Numérique, qui aurait commencé à y travailler à partir de juin dernier. On a déjà un prototype plus ou moins avancé à peine 6 mois plus tard. Donc déjà, c'est vrai que Gabriel Attal s'est félicité d'être le premier État européen, mais c'est vrai que là-dessus, les services sont mis en ordre de marche. C'est le Data Lab de cette DINUM qui est dirigé par donc un ingénieur des mines, dont d'ailleurs Gabriel Attal n'a pas tari d'éloge lors de la présentation à Sceaux de cet Albert, qui a travaillé 10 ans dans le privé, qui s'appelle Ulrich Tan, et donc qui a mobilisé une petite équipe, on parle je crois de moins de dizaines de personnes, qui ont su rapidement développer, alors oui, c'est pas ChatGPT, mais c'est un chatbot qui va se nourrir des informations qu'on va lui apporter, et qui va avoir un certain nombre de domaines applicatifs assez larges, il a cité les impôts, par exemple, on pourra poser des questions, interagir avec lui, et après a rappelé aussi le Premier ministre, il y aura toujours un humain derrière pour répondre plus concrètement aux questions. Mais il a aussi parlé de la prévention des feux de forêt. On sait qu'il y a une cinquantaine d'administrations qui se sont rapprochées de la DINUM pour expérimenter cette IA. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans un pays où on a été souvent, on a toujours brandi le drapeau, on veut un cloud souverain, on veut un OS souverain, je me rappelle Arnaud Montebourg. Une première ébauche d'une IA souveraine. Oui, on verra comment ça fonctionne.
Quand on est dans les impôts, on est vraiment dans les data, au cœur de nos data, nous tous, que ce soit les entreprises, que ce soit les individus.
Donc, il y a cloud souverain pour des enjeux de confidentialité.
J'ai envie de te dire que c'est tout l'enjeu. Et justement, moi, ma grande question, ça va être de savoir où sont stockées ces données. Parce que si on réédite,
aux États-Unis,
on a déjà fait du côté du... Non mais vraiment, si on refait un Alzata Hub 2.0 ou 4.0 là pour le coup, on va avoir
pour
de gros soucis.
C'est dans les data centers de l'administration fiscale. Victoire, là, ton avis sur ce...
Moi j'ai beaucoup de réserves sur libre et souveraine. Aujourd'hui, le GenAI, les infrastructures, elles sont pas françaises aujourd'hui, donc moi je veux bien qu'on parle de souveraineté. On n'y est pas encore. Une petite anecdote par ailleurs, j'étais cet après-midi dans un bureau, il y avait beaucoup de boîtes d'IA françaises par ailleurs, qui développent beaucoup de technologies dont pourrait aujourd'hui se servir la DINUM. Donc je suis allée les voir, j'ai ouvert la porte. Les gars, vous avez vu ce qu'a annoncé Attal ce matin? Est-ce que vous avez pris contact avec la DINUM? Il y avait pas mal d'entreprises qui avaient pris contact avec la DINUM par ailleurs et qui avaient éprouvé des difficultés terribles à collaborer avec l'État et à apporter leur techno. Alors moi, c'est un peu mon questionnement. On veut une IA libre et souveraine. On a des boîtes en France qui sont en train de développer des technos.
C'est une partie technologique, c'est une partie de référencement, c'est une partie
de trouver
la bonne personne aussi.
De faire bosser le secteur privé avec le secteur public, trouver le bon interlocuteur qui part pas avec les remaniements ministériels, rencontrer les bonnes personnes, avoir les bonnes connexions. Ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Donc moi, c'est juste ce libre et souverain qui m'a fait un peu tiquer. Après, je trouve ça formidable que l'État lance ce genre de...
Et ce sera un bel exercice de partenariat public-privé. Pour le coup, on en parle à l'année dans l'économie numérique, justement, de pouvoir mettre en place, de façon très concrète, ces partenariats, de les faire avancer. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être aussi, dans l'élaboration et dans la mise au point, et peut-être que ce sera le cas dans le déploiement ou dans d'autres versions d'Albert et de la suite IA et logiciels de l'administration.
Ils ont quoi comme moteur qui tourne? Ça a été développé spécifiquement
Je crois que ça s'appuie sur des alors ils ont dit qu'ils avaient entraîné leur IA sur les modèles de langage ChatGPT et de Llama, c'est ça.
Et Llama 2. C'est pas particulièrement souvent en l'occurrence. J'ai déloupé un épisode,
c'est la partie.
Ils sont pas rentrés trop dans le détail. Ils ont pas trop soulevé le capot. Ce serait d'ailleurs intéressant de les faire venir pour savoir un petit peu concrètement sur quelle technologie ils basent.
Après derrière, on a quand même du Mistral.
Je reviens sur mon exemple du LZTAB. En l'occurrence, il y a toujours une procédure en cours qui va être jugée, il me semble-t-il, à la fin du mois. On devrait avoir un nouveau jugement qui va tomber sur l'appel fait par des organisations, notamment de liberté en ligne, mais aussi d'entrepreneurs du numérique de l'Hexagone, parce que, pour l'instant, les données de santé des Français sont toujours stockées chez Microsoft. Mm-hmm. Et le problème, c'est pas que les serveurs de Microsoft soient en Europe,
mais c'est parce que dans le
problème, c'est FISA.
Dans le cahier des charges, voilà.
Je suis complètement d'accord avec toi.
C'est un cahier des charges qui a évolué.
Mais je suis complètement d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il y a toujours un bouclier sur le cloud américain dans lequel les services de renseignement américains peuvent toujours aller puiser quand c'est une entreprise américaine chez laquelle vous hébergez vos données. Ça, c'est le FISA. Ça ne changera pas, pour l'instant en tout cas. Et qu'en l'occurrence, la donnée de santé... Alors, c'est vrai que le rapport remis par Philippe Aguillon et Anne Bouvreau sur IA et leur ambition, en l'occurrence pour la France, et c'est d'ouvrir un peu cette culture de la donnée, et notamment de la donnée de santé, on va voir sur les données des citoyens, des citoyennes, des contribuables, des électeurs et électrices, pour ceux qui sont en âge de voter et qui sont inscrits sur les listes électorales, ce que ça va donner. Attention, c'est des données qui sont de la nitroglycérine.
Alors, je reviens sur ce qui a été annoncé par Gabriel Attal aujourd'hui, Victoire. Je trouve qu'il a plutôt pas trop mal à amener les choses quand même, parce que dès qu'on parle d'IA, on va se dire, c'est en plus au moment où on parle qu'il faut faire des économies d'État, on parle d'IA, on s'est dit bon allez d'accord, ils vont supprimer des milliers de postes pour remplacer par l'IA. Il a été assez habile dans cette présentation. C'est vrai que je reviens aux annonces qui avaient été faites fin 2023. Alors c'était Jean-Noël Guérini, c'est Jean-Noël Barrot et Stanislas Guérini.
Décidément, on a des problèmes de prénom.
Va falloir que je
Satoshi Nakamoto, en fait,
le deuxième
qui a
soir en place François, mais je prends déjà un prénom. 500 postes de data scientist, ils annonçaient à l'époque, qui allaient être créés de designer, de chef de produit, etc. Victoire, enfin, tu as écouté Gabriel Attal, lui, il a été assez sobre d'ailleurs sur cette partie-là. On est sur un nouvel assistant.
Moi, c'est un très bel exercice de communication. Pour le coup, je fais de la com. Il a des très bonnes équipes de com. Je les félicite. C'est juste que, effectivement, quand on s'intéresse vraiment au sujet, aux aspects techniques, il y a des choses qui coincent. Oui. Il a apporté ça de manière très intelligente. Tout le monde a envie de s'emparer aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Tout le monde ne peut pas s'en emparer. Aujourd'hui, il faut se dire, il y a ceux qui peuvent, il y a ceux qui peuvent pas. Aujourd'hui, les capacités techniques de la plupart des développeurs, de créateurs et de consommateurs de LLM ne leur permettent pas d'accéder à de la ressource disponible. De calcul.
Donc là, on le rappelle, toujours, c'est des algorithmes, c'est de la data, c'est de la puissance de calcul, et puis après,
c'est des hyperscalers, c'est des chips,
c'est des compétences, et puis tout ça, c'est un coût.
Exactement, un coût très 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 élevé. Alors on parle des Mistral, ils lèvent des dizaines de centaines de millions d'euros. C'est pas un sujet pour eux, c'est un sujet pour ceux qui n'y ont pas accès. Donc non, c'est un très bel exercice de communication. Je suis vraiment très curieuse. Alors si vous le recevez sur le plateau, je regarderai avec attention, mais d'aller plus en profondeur sur vraiment les sujets techniques et l'application. Et puis si ça simplifie la vie des fonctionnaires et si ça simplifie la vie des Français, tant mieux, finalement, c'est tout ce qu'on attend.
Oui, puis en plus, au moment où on est tous en train de commencer une déclaration d'impôts, alors même si elles sont pré-remplies, c'est plutôt bien fait, ça aussi, ça avait été un vrai succès, d'ailleurs, cette application d'impôts.
Oui, mais ça fait aussi partie de la transfo numérique de l'État. Et D'ailleurs, ça a été chiffré, si je ne dis pas de bêtises, c'est 908 millions d'euros qui sont pris dans le plan France Relance, qui participent à la transformation numérique, au sens très large du thème, avec de l'IA, mais pas que, de l'État et des administrations. Donc, il y a quand même un budget qui est chiffré et qui va permettre de pouvoir accélérer cette transformation-là.
Lutte contre la fraude aussi, j'imagine, ça aussi.
Oui, sans doute, oui. Oui. Je ne crois pas qu'il soit trop étendu sur cette question-là, mais non, oui, mais... on peut imaginer qu'une IA pourra aller scruter les réseaux sociaux, comme le font d'ailleurs certains agents du fisc, pour savoir si Frédéric Simotel a bien déclaré sa piscine.
Et oui, non, mais... je pense que c'est François Simotel, en l'occurrence, qui n'a pas déclaré sa piscine, ça doit être ça.
Non, mais c'est vrai que quand il y a une masse colossale de données aujourd'hui à analyser par des agents du fisc pour lutter contre la fraude, eh bien, une IA le fera certainement beaucoup mieux.
Oui, on l'a vu, ils ont déjà récupéré 40 millions d'euros, alors c'était sur l'histoire des piscines.
Oui,
bon, ça reste tout petit encore. Mais voilà, c'était le premier.
Tout ça, c'est quand même assez symbolique. Hein. Voilà. On en parle beaucoup parce que c'est spectaculaire, mais ça reste de la petite, la véritable fraude.
Moi, je suis un peu
humain qui vont enquêter pour la rentrée.
Comme Victor, j'attends la deuxième étape parce que voilà, présenter. On a tous eu testé ChatGPT au début, c'est bien. Puis le jour où on est vraiment devant un cas d'application, on dit bon, non, je fais quoi.
Et en parlant de cas d'application, je reviens à la question de la formation. C'est aussi extrêmement important d'avoir des citoyens, je le redis, des contribuables et potentiellement aussi des électrices et des électeurs qui sont formés à la donnée, comprendre vraiment comment ces prompts, ces robots conversationnels vont fonctionner. C'est pas tout d'en déployer, encore faut-il pouvoir les mettre dans les mains concrètement de nous en tant que consommateurs et consommatrices d'interaction
après,
avec l'administration.
Pas vraiment dans les mains des administrés. Après, ce que je vais comprendre, c'est surtout entre les administrations ou au sein de l'administration elle-même.
Oui.
Après, il y aura des déclinaisons comme Aristote, comme tu le disais.
Après, pour aider, l'éducation. Alors, ça pourrait être pour aider les contribuables, c'est-à-dire le contribuable qui dit je
oui, mais là,
pas
là ce sera
truc,
un chatbot
là,
un peu plus intelligent.
Mais si j'ai bien compris, ça va aussi passer par l'interaction des maisons France Service, qui vont aussi pouvoir faire œuvre de pédagogie auprès de celles et ceux qui ont besoin justement de comprendre comment l'outil fonctionne directement.
Victoire, dernier mot sur ce sujet.
J'attends.
Bon.
Et puis au-delà, il y a encore une question d'infra, toute bête, hein, d'infrastructure. C'est-à-dire qu'une IA et un robot conversationnel, c'est génial, encore faut-il avoir le réseau pour pouvoir la faire fonctionner.
Là,
je dis ça, j'ai rien.
Oui, je ne vais pas lancer le sujet sur l'État doit investir dans Atos et tout ça, mais voilà. On pourra se lancer là-dessus. Tiens, autre sujet, alors là, on va rebasculer de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Amazon. Alors, Amazon qui ferme son service de livraison par drone en Californie, enfin, qui le suspende pour l'instant. Ils disent qu'en Californie, ils le ferment, mais ils vont continuer à le tester au Texas. Alors, on voit quand même, Amazon est vraiment en train de se poser plein de questions. Ils ont fermé leur magasin sans caisse. Ces livraisons par drone, alors en gros, on se faisait livrer dans son jardin différents produits. Alors évidemment, pas toutes ces 40 kilos de course, mais enfin, ça marchait plutôt bien. Et puis là, je pense que des coûts, les restrictions réglementaires, parce que survoler les populations avec des drones, c'est pas aussi facile que ça.
Et puis j'imagine qu'il doit y avoir aussi des législations différentes entre les États, entre la Californie et le Texas, notamment sur le survol par drone. Si je ne m'abuse, mais...
Oui, il y a des enjeux certainement de législation. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est mis en avant par les commentateurs. C'était une phase de test. Il y en avait deux. Hein. Je crois qu'il y a une ville en Californie. Et puis, une ville, 3500 habitants en Californie. Un test aussi au Texas. Pareil, une petite ville. Moi, je me demande si ça marche vraiment, en fait. Si ça marche vraiment. Parce que là, on a quand même des drones, apparemment, qui ont une capacité d'emport, je crois, de une petite dizaine de kilos, je crois. Hein. C'est très... de quelques centaines de grammes. Ouais, je crois que c'est une boîte de chaussures.
C'est ça.
Donc déjà, la commande est limitée. Une autonomie, je crois, de 12 km pour ces drones. Donc, est-ce que la technologie est aboutie? Moi, personnellement, quand Amazon a dévoilé ça, c'est en 2012, j'y ai jamais vraiment cru, en tout cas, à moyen terme. Peut-être dans 20 ans, on aura des drones comme ça. Mais
pour quelque chose de niche, quoi, aller livrer des médicaments dans un endroit très précis, un peu loin.
Oui, mais là, on n'est pas... Amazon, on est dans du commerce de masse. Est-ce qu'il y a une demande suffisante?
Tu te souviens, à un moment, c'était un dirigeable qui était au-dessus, les drones partaient dans le dirigeable.
Voilà, ils partaient dans le dirigeable, et puis c'était la science-fiction, on était dans Blade Runner. Bon, là, apparemment, on n'y est pas vraiment. Alors, cela dit, Amazon avait quand même annoncé en fin d'année dernière un déploiement en Europe, en Angleterre et en Italie. Et à ma connaissance, c'est toujours pas ajournée. Donc, ils comptent vraiment le lancer. Et cette fois, pas en phase de test, mais vraiment un service efficient, total, dans deux villes qui n'ont pas encore été données. Moi, personnellement, je suis assez sceptique. Et comme Amazon est en phase de rationalisation avec des suppressions de coûts, des suppressions de personnel, quand on a un service qui décolle pas vraiment, si je peux me permettre, on arrête et puis on essaie ailleurs. Mais bien que, ils veulent quand même le lancer en Arizona, je crois. Hein. Ils veulent tester à nouveau en Arizona ce service.
Mais on sent quand même, Victoire, même aussi géant que l'on soit, aussi. Alors, c'est pas la partie Amazon place de marché qui est la plus bénéficiaire, hein, comparée à la partie cloud, mais quand ça coûte et que c'est pas aussi efficace que l'on veut, c'est pas suffisamment marché de masse, on arrête.
Il y a un point qui était intéressant sur les livraisons par drone, c'était l'impact environnemental. Mm-hmm. Qui est très très faible comparé à.
C'était bien meilleur qu'une camionnette qui va faire la tournée. Oui.
Ouais, je crois que c'était 4 à 5% total des émissions pour les livraisons, ce qui était vraiment minuscule. C'est un peu le truc que je trouve dommage. On avait peut-être trouvé un moyen de livraison écologiquement viable. Moi, je baisse pas les bras. Je trouve ça intéressant qu'ils testent sur des petites villes. Alors, en plus, j'ai lu les déclarations de la maire. Phoenix, c'est la ville. Non. Enfin, c'est pas le grand Phoenix, c'est un petit Phoenix qui se réjouissait d'être un pilote pour les drones d'Amazon. Alors, en plus, je pense que c'est ça qui est intéressant, d'aller dans des petites villes, de voir les usages. Moi, je suis pas sûre qu'ils ferment le rideau. Je pense qu'ils continuent à tester.
Il le disait, Frédéric vient de le dire à l'instant. Hein. Là, il le ferme en Californie, pour cette partie-là, parce que là, sans doute que la population n'est pas suffisamment
consommatrice,
qu'ils ont un service de livraison tout à fait performant. Mais moi, j'y crois beaucoup. Je sais qu'en Corse, La Poste faisait ça en Corse pour des livraisons de. Ou dans la Drôme, pour des livraisons de médicaments dans des endroits.
Et on l'a vu aussi beaucoup, notamment pendant les confinements, avec une entreprise, une start-up californienne, mais dont une partie de l'équipe était basée en France également, livrer en Afrique des poches de sang et des médicaments.
Ce genre de choses.
Et pour le coup, c'est extrêmement efficace. La vraie question, en effet, c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est d'abord s'assurer que l'autonomie soit réellement là pour ce type de livraison-là, qu'on ait aussi d'un poids embarqué pour la livraison qui soit substantiel, parce que sinon c'est encore une fois un peu limité pour nous, consommatrices et consommateurs, pour choisir une livraison par drone. Au-delà de ça, je trouve que c'est ce qu'on est en train de voir là avec ces grandes entreprises-là, ces plateformes et ces big tech, c'est qu'elles ont le droit de faire du stop and go, elles ont le droit de tester à un moment donné et de se dire finalement non, ça fonctionne pas, donc on abandonne, peut-être qu'on redéploiera après, et c'est pas grave. Elles nous avaient habitués à être peut-être un petit peu plus manichéenne en matière de lancement de produits, en disant on a raison, c'est ça la solution, on le déploie à échelle massive. Là, en ce moment, on voit qu'elles testent, qu'elles font des bêta-tests au fur et à mesure. C'est un peu de la R&D qu'elles déploient devant le grand public, mais c'est pas grave, elles se laissent le droit aussi de pouvoir à un moment donné se dire si ça marche pas, c'est pas grave, on arrête.
Bah, surtout Amazon, qui est quand même le spécialiste du fait. Hein. Ils avaient lancé des magasins sans caisse, Amazon Go, je crois, à ma connaissance, qu'ils ont arrêté. Ils avaient lancé des librairies aussi, qui étaient plutôt sympas, mais avec une offre limitée. Là, je crois que
dans les services de livraison, ils ont des robots.
Amazon, ils ont quand même la culture d'entreprise, c'est on jette plein de choses à l'eau et ce qui remonte à la surface, on le garde. Et là, en l'occurrence, alors je sais pas, c'est pas un abandon, vraiment, mais Amazon, ça a toujours été, on lance beaucoup de choses. C'est très différent d'Apple. Hein. Apple, c'est on a un produit le plus fini et il faut qu'il marche. Amazon, non. Amazon, c'est on inonde et puis ce qui ressort, on le garde. Les drones, moi aussi, je ne pense pas que ce soit terminé. Sans doute qu'on était sur une population qui ne commandait pas assez et du coup, ils n'avaient pas assez de retour d'expérience. Sans doute ça. Quand on est sur une population de 3500 habitants, il n'y a pas des centaines de commandes par mois sur Amazon. Et comme le drone est limité, ils ne peuvent pas non plus aller dans des zones trop densément peuplées ou en tout cas où il faut faire plus de 10-20 km pour livrer. Donc c'est assez compliqué à tester, sans doute. Et c'est sans doute pour ça qu'ils abandonnent ce village et qu'ils vont.
J'espère qu'on n'est pas sur quelque chose de similaire au magasin sans caisse, parce qu'on a fini par découvrir quand même quelques années après que à la place de magasins sans caisse, on avait des types en Inde qui manuellement mettaient les articles dans le panier et validaient le panier. Donc j'espère qu'on va pas découvrir dans 5 ans, après avoir tourné cette émission, qu'il y a des types en Inde à distance qui
pilotent des drones.
Je leur souhaite pas quand même.
ce serait quand même un sujet. Et il nous reste, on va démarrer avec un sujet sur Meta. J'aurais voulu qu'on en parle. On reviendra dessus dans la deuxième partie de l'émission. C'est Meta qui ouvre son système d'exploitation qui s'appelle Horizon, donc pour la réalité mixte, qu'on retrouve dans son casque MetaQuest. Asus, les nouveaux sont intéressés. On parle même d'une version pour Microsoft Xbox. Est-ce que ça veut dire que la grande bataille des casques VR est lancé. Je ne sais pas qui commence.
Ah bah, j'ai l'impression que c'est en tout cas ce que déclare Mark Zuckerberg de façon assez symptomatique, en disant, voilà, on le sait, dans l'histoire de l'informatique, il y a des modèles fermés, il y a des modèles ouverts. Nous, on est du côté des good guys, on est le modèle ouvert. Suivez mon regard, le modèle fermé, c'est évidemment Apple. Donc, de façon extrêmement concrète et pragmatique, oui, la guerre continue entre Mark Zuckerberg et Tim Cook. Et cette fois-ci, elle se déporte, encore une fois, du côté des plateformes et des univers de réalité mixte. Ce que Mark Zuckerberg essaie évidemment de toucher, c'est ses Vision Pro et c'est cette informatique spatiale développée par Apple en ce moment.
D'ailleurs, il y a une alliance, le App Lab là, avec les applications Apple, elles vont être dans le magasin d'applications aussi de Meta Horizon.
Et en l'occurrence, ils essaient aussi de séduire Google pour leur propre store de la même façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on pensait que le métavers était mort chez Meta. Avec des
On a quand même
assisté à des coupes massives dans les équipes, notamment de Reality Labs chez Meta, pour les déporter en budget sur la recherche IA. Donc c'était quand même intéressant de voir ça. Enfin, quasiment, il me semble que c'était en octobre dernier où on a eu encore une vague de licenciements chez Reality Labs. Là, finalement, quelques mois plus tard, on rouvre une possibilité à Horizon de pouvoir se développer en tant qu'OS et en tant que plateforme. Donc on relance peut-être la course au métavers. Mais surtout, voilà, c'est vraiment ce match symptomatique déclaré par Zuckerberg à Tim Cook qui est intéressant.
Oui, je sais, tu parlais de bataille qui est lancée. Moi, je ne sais pas si c'est une bataille ou c'est un baroud d'honneur avec un service qui semble-t-il, selon moi, j'ai jamais cru et je pense que ça n'intéresse pas grand monde au final. Alors, il y aura des applications
par l'univers de la formation.
Oui, bah, peut-être des choses B2B, mais je pense que le grand public n'ira jamais là-dessus. Il y a trop de barrières, des barrières psychologiques, peut-être de crainte de la technologie, des barrières fonctionnelles, des barrières liées simplement à l'absence d'utilité de ce service-là. Voilà, je pense que les gens n'ont pas envie de se mettre un casque le soir en rentrant à la maison et d'être dans un univers virtuel qui en plus n'est pas particulièrement beau n'offre pas beaucoup de services. Donc voilà, donc là ils ouvrent l'OS pour essayer d'avoir le plus de hardware possible, essayer de convaincre toujours, mais je vois pas les applications qu'elle a dessus. Ça a coûté déjà beaucoup d'argent, ils ont licencié. Ils réagissent sans doute au Vision Pro, mais même le Vision Pro, j'aimerais bien voir les chiffres.
Justement, c'est plutôt Apple qui a réagi. On va marquer une pause, on va retrouver le journal de Marjorie Adelson dans un instant, le journal de l'écho, puis on reviendra sur ce sujet-là, et puis on parlera juste après aussi, on va avoir un papier très intéressant d'Aude Kersulec sur Spotify, qui a un trimestre. Alors, ils en ont de temps en temps des trimestres rentables, mais là, en tout cas, celui-ci est plutôt bien rentable, et voir l'avenir de Spotify. Allez, on marque une courte pause, journal de l'écho, c'est tout de suite sur BFM Business, et on se retrouve juste après.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de la tech avec nos débriefeurs et débriefeuses, Marjorie Paillon, journaliste, Victoire Rivaton, consultante indépendante et fondatrice de Yo, et Frédéric Bianchi, journaliste BFM Business. Alors, on a parlé d'Apple, des casques de réalité virtuelle, on a parlé d'Amazon, on a parlé de tous ces sujets. Déjà, il y a un sujet qui est important ce soir, c'est Spotify. Mais alors, avant d'en parler entre nous, je vais laisser la parole à Aude Kersulec. Aude, pour nous parler justement de ce trimestre rentable pour Spotify.
Oui, trimestre très applaudi en bourse. L'action monte en ce moment de 16% à Wall Street. L'entreprise fait deux choses sur ce trimestre. C'est 18 ans d'abord, c'est son anniversaire ce mardi, l'âge de la majorité. Et puis le trimestre est rentable. C'est l'annonce de Spotify. Rentabilité retrouvée avec un bénéfice net de 168 millions d'euros au premier trimestre. On parle bien d'euros. Spotify est suédois, mais coté aux États-Unis au Nasdaq. Spotify compte plus d'abonnés qu'il y a trois mois, 239 millions en tout à travers le monde. C'est en ligne avec les prévisions du groupe pour 615 millions d'utilisateurs actifs. L'objectif ultime, c'est d'atteindre le milliard en 2030. La rentabilité record de Spotify ce trimestre, elle s'explique aussi par la diminution des coûts, réduction drastique qui avait lieu notamment en décembre avec des coupes dans les effectifs. Un employé sur six avait dû partir. Donc Spotify s'est largement allégé. Et puis l'entreprise est bien positionnée pour atteindre ses objectifs de l'année. L'objectif, ce sera la rentabilité sur toute l'année, pas sur un seul trimestre. Pour le moment, Spotify ne réalise que des trimestres rentables par-ci, par-là. Manque de rentabilité, voilà, pour ces 18 ans. C'est le bon âge pour essayer d'être régulier cette fois-ci.
Voilà, et Spotify, merci Aude Kersulek. Spotify qui, voilà, qui est digne de son logo vert, puisque voilà, trimestre vert est plutôt pas mal, hein, 168 millions d'euros. Aude Kersulek vient de nous le dire, contre une perte de 156 millions il y a un an. Donc on voit quand même que ça a plutôt bien pris. On rappelle, presque 240 millions d'abonnés payants.
Ouais, ce qui est
vraiment important, avec des utilisateurs actifs, alors qu'ils sont un tout petit peu moins que les prévisions, c'est 615 millions contre 618 millions qui étaient prévus. Voilà, il y a 3 millions de différence. Mais voilà, et puis il y a beaucoup d'innovations dans tout ça. Fred Bianchi.
D'abord, félicitations à Spotify. C'est quand même la seule entreprise finalement européenne tech grand public qui a réussi, oui. Qui est leader du marché. J'en connais pas d'autres, hein, mais il y a peut-être des exemples. Mais en tout cas, dans le grand public, j'en vois pas d'autres.
Sur la tech, non.
Bravo. Après, ça montre que le marché est quand même très difficile, parce que le point mort qu'il faut avoir pour être enfin rentable, si tant est que ce soit pas un accident de parcours positif, hein, parce que c'est vrai que des trimestres, il y en a plus eu dans le vert, dans
ils
le rouge.
Jamais, ils n'ont jamais eu une année complète.
De bénéfices. Alors ça, là, c'est du bénéfice d'exploitation. En plus, c'est pas lié à la revente ou à la valorisation de certains actifs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, le point mort,
la réduction d'effectifs.
Il est haut. On est à plus de 600 millions d'utilisateurs, une présence dans plus de 200 pays, 240 millions, tu le disais, d'abonnés payants. Malgré tout, malgré ça, on fait un petit bénéfice d'exploitation et après avoir fait une grosse perte au trimestre précédent. Donc, c'est difficile, mais en tout cas, il faut s'en féliciter. Hein, Spotify, ça reste leader mondial. Je crois que c'est 32% de part de marché au niveau mondial. Apple Music, quand Apple avait lancé avec tambour et trompette Apple hors de musique, en disant on va revenir sur Spotify, tout ça, ben on s'aperçoit qu'ils n'y sont pas arrivés. Alors Spotify a beaucoup investi aussi dans le podcast. Je crois qu'il y a des millions de podcasts sur Spotify. Ils ont investi plus d'un milliard d'euros pour ça, pour conserver leur avance. Et c'est vrai que le produit est de qualité, l'interface utilisateur est bonne, l'IA qui nous fait des sélections fonctionne bien. Donc peut-être qu'enfin Spotify va gagner de l'argent sur une année. En tout cas,
surtout qu'en phase victoire, ce sont des géants. Hein. C'est Amazon Music, c'est Apple Music. C'est pas leur cœur de métier. Ça fait partie de leurs activités annexes, bénéficiaires ou pas, mais en tout cas leurs activités annexes. Voilà, Spotify, c'est un pur player dans le domaine.
Tu as fait exprès de pas citer Deezer.
Oui, c'est vrai. Ouais. On l'oublie un peu trop souvent, oui.
Non, mais la recette, après, la recette de la rentabilité, c'est, bon, voilà, on licencie des gens, on fait moins de dépenses marketing, on augmente le prix des abonnements, et puis on fait un trimestre qui est rentable aussi. Je pense que derrière, il y a une logique économique logique. Voilà,
c'est normal, c'est une entreprise qui doit réaliser des bénéfices, elle ne peut pas vivre.
Mais c'est l'âge de la maturité. Je pense que ça arrive aussi avec un mouvement dans la tech qui va se concentrer beaucoup plus sur la rentabilité aujourd'hui. C'est pas la seule entreprise de tech qui va se concentrer sur la rentabilité. Donc
après, c'est vrai qu'ils ont plusieurs. Il y a tous les challenges qu'ils ont. C'est le modèle de rémunération des artistes. Est-ce qu'il est équitable ou pas? L'indépendance des labels aussi. Enfin, il y a des labels indépendants, des petits labels. Est-ce qu'on va les faire vivre ou est-ce qu'on va continuer un peu comme dans le cinéma où on ne fait vivre que les grosses productions? C'est l'évolution des comportements des consommateurs. Ouais. Bon, pour l'instant, on est tous plutôt dans ce domaine-là. C'est les innovations techno, on va en parler. Hein. C'est de l'IA.
Et puis, ils ont aussi un problème, en l'occurrence en France, qui s'appelle le Centre National de la Musique, CNM, qui a été construit en 2020 et bâti sur le modèle du CNC pour le cinéma, pour pouvoir, là aussi, aller chercher des relais de croissance et des financements nouveaux pour les artistes et pour le marché de la musique en tant que telle, qui va imposer une taxe streaming. On le sait, Spotify fait partie de ceux qui sont montés au front dès l'annonce de cette taxe streaming.
La définition est un peu complexe,
c'est un peu flou. L'idée, en tout cas, pour le CNM, c'est de pouvoir mettre l'accent sur la diversité, sur l'émergence des nouveaux artistes et mieux les rémunérer également. Après, le fait que Deezer soit monté au front en bille en tête, avec des termes pas forcément extrêmement sympathiques pour le CNM par ailleurs, et assez ordurier, on va pas se mentir, et en essayant de déployer des trésors de solutions pour contourner cette taxe, par exemple, hyper rigolo, juste un exemple, pour ne pas être du coup sous cette taxe streaming, ils se sont dit, ok, bah, puisque c'est ça, on va presser des vinyles, comme ça on devient éditeur de musique physique et plus juste numérique. On est toujours obligé de payer la taxe ou comment ça se passe? Et du coup, leur problématique, c'est que eux, dans le business model à l'heure actuelle, ils sont obligés de reporter toute éventuelle taxe sur le prix de leur abonnement. Et leurs abonnés, en l'occurrence, n'ont pas du tout envie de payer encore plus cher, puisqu'on s'est déjà fait, ils se sont déjà fait augmenter le prix de l'abonnement en juillet dernier. Donc, des hausses successives de tarifs comme ça, les aujourd'hui plus de 600 millions d'utilisateurs actifs vont pas forcément le supporter
surtout
très longtemps.
Sauf que je pense que ça va être différent des Netflix qui peuvent rajouter un peu de pub. Là, quand on écoute de la musique, autant un film, parfois, bon, on est un peu habitué, on peut accepter une pub toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes. Autant la musique, si on a tout d'un coup une pub qui nous bloque la musique.
Surtout que le freemium a déjà été testé et prouvé sur des modèles de streamers musicaux. Pour le coup, les plateformes de streaming musical, elles sont habituées à le faire depuis le début même, depuis leur lancement. Donc voilà, donc il y a quand même encore quelques petits problèmes à régler avec ces utilisateurs, ces utilisatrices-là, et puis du coup les éventuelles taxes qui peuvent s'accumuler, peut-être pas dans les 200 pays dans lesquels ils sont présents, mais en tout cas en France néanmoins.
Oui, mais la différence entre Spotify et Netflix, c'est que Netflix, ils produisent leur propre contenu. Alors ça coûte, ils investissent énormément, c'est le cas d'Amazon aussi. Spotify, ils sont un peu dépendants des contenus que produisent les autres. Ils produisent rien, Spotify.
Alors, à part
ils produisent des podcasts, ils ont beaucoup investi là-dessus. Ils pourraient se diversifier dans d'autres types d'activités. Aujourd'hui, Spotify est dépendant de l'offre. Alors peut-être que d'ailleurs, ils vont profiter là de l'engouement pour certains artistes comme Taylor Swift,
qui au départ ne voulaient pas
être sur Spotify. Il y avait un énorme bras de fer, mais alors ça remonte. Ça a quasiment une dizaine d'années cette affaire-là.
Oui, mais en fait,
maintenant elle y est, et je pense qu'elle contribue largement au succès aussi de
là, Spotify. Son dernier album a fait un record absolu d'écoute sur Spotify sur la première heure de mise en ligne. Donc. Ouais.
Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter longue vie à Spotify, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de Spotify? Moi souvent quand je suis pas à cette place, quand je suis à la place des débriefeurs avec François, moi je me dis mais Spotify pourquoi ils n'en profitent pas pour être un réseau social, pour être le réseau social européen, parce que finalement ils ont nos data, ils connaissent un peu nos goûts en musique, pourquoi pas, on sait qu'ils sont en train de chercher, ils ont mis du podcast,
c'est ce qu'ils ont essayé,
ils ont créé cette IA, alors ils mettent un peu d'IA aussi, alors il y a de l'IA pour nous créer nos propres liste, mais ils voudraient mettre en place une sorte de Spotify GPT, on va dire tiens j'ai envie d'écouter quelque chose de doux avec je sais pas quoi, Céline Dion et puis un peu de musique classique derrière, puis hop il va me faire ma
reco algorithmique qui soit encore plus personnalisable avec des agents conversationnels en IA. Oui, ça c'est assez simple, puis c'est surtout une utilisation qui peut être bien comprise par les consommateurs et les consommatrices et les users de Spotify pour le coup. Après, en faire un réseau social en tant que tel, je pense que Daniel Ek a des suffisamment de problèmes avec la régulation qui lui tombe dessus pour pas se prendre en plus celle des gatekeepers.
Ils ont investi dans le français Biréel.
Alors, mais c'est bien qu'ils diversifient leur investissement. C'est plutôt malin de la part, encore une fois, de Daniel Ek, qui est le CEO et fondateur de Spotify. Après, c'est vrai que Spotify, ça reste quand même une marque européenne assez incomprise des Européens en réalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fiction qui a été notamment proposée chez un streamer vidéo pour le coup sur Spotify, qui était une fiction faite dans le pays d'origine de Spotify en l'occurrence, qui est passionnante parce qu'on on vit vraiment la création de ce réseau streaming musical.
Oui, on attend que les artistes,
avec différents personnages,
les majors signent les unes après les autres.
Et on voit aussi toute cette histoire du marché de la musique qui finalement a été réticent à la disruption. C'est un très vilain mot, je sais. La disruption technologique pendant une dizaine d'années en disant non, on ne veut absolument pas se faire percuter par la tech. Et à partir du moment où la musique comprend que finalement il y a peut-être une monétisation à aller chercher, elle pacifie ses relations avec la tech, c'est drôle. C'est un peu toute l'histoire de l'incompréhension aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de Spotify.
Mais oui, il manque cette dimension, tu as raison, communautaire. Spotify aujourd'hui, c'est un supermarché de la musique. Mais on n'apporte rien à Spotify.
On nous propose des places de concert, tout ça, mais on ne nous dit pas tiens.
Oui, alors il y a tel artiste que vous suivez va être en concert. Voilà, donc oui, ils proposent quelques petits services en plus. La dimension communautaire n'existe pas. Si tant est qu'il y ait suffisamment de monde dans le modèle de Spotify pour aller parler de musique, parce que voilà, c'est des petits marchés. Hein. Encore une fois, le grand public, il va écouter Taylor Swift, il a pas envie de raconter sa vie, ou voilà, et puis il a des réseaux sociaux pour le faire. Donc c'est vrai que Spotify, il pourrait peut-être se diversifier là-dessus. Maintenant, ils sont allés un peu au bout du système, quoi. Je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire de plus finalement. C'est vrai qu'ils ont eu l'intelligence de partir sur le podcast, où ils ont des positions assez très fortes, notamment aux États-Unis. Davantage. Le jeu vidéo, peut-être, ou des choses comme ça, comme a tenté Netflix.
Alors, sur l'effet communautaire, je suis pas sûre d'être d'accord avec toi. Je trouve qu'en termes d'identité de marque, t'as une appartenance à une communauté. Alors, moi, je suis Deezer. T'as tes copains qui sont Spotify. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes sur Twitter. T'as ceux qui sont Apple Music. Je trouve qu'en fait, il y a un truc un peu tribal qui s'est créé autour du streaming. Alors, moi, quand un copain m'envoie un lien Spotify, ça me rend dingue. Et je repasse sur Deezer et je lui envoie un lien Deezer, ça le rend dingue. Je pense que, en fait, mine de rien, mais c'est un truc très intangible, il y a des communautés qui se sont créées autour de ça. En fait, je pense que leur prochaine étape, et tu parlais de place de concert.
Mais c'est une communauté comme il y a la communauté Carrefour. Carrefour, la communauté Leclerc, la communauté Intermarché. Mmh. C'est pas forcément.
Ouais, mais tu vois, là où je pense qu'ils ont un truc à jouer, c'est plus sur de l'événementiel physique, quelque part, pour rassembler leurs abonnés, là où en fait une teuf Carrefour, bon, t'as pas très envie, et voilà, ouais, j'ai rien contre Carrefour, mais tu vas pas une teuf Carrefour, une teuf ou un grand festival spécifique, ouais, là c'est là où tu rassembles.
Sauf que le problème, c'est que pour justement réussir à avoir ces bons résultats sur ce trimestre, ils ont dû aussi couper en budget marketing. En partenariat avec des festivals, cher, les Francopholies notamment.
Même si c'est des gros sponsors
on a
du
fait les
FC
frais.
Barcelone. Hein.
Oui, ouais, c'est vrai, ils sont sponsors maillot du FC Barcelone.
Ouais, mais le printemps.
Et ils investissent dans le
stade.
Peut-être pas l'année prochaine.
Aujourd'hui, les Francopholies et les printemps de Bourges notamment sont dans le rouge à cause de ça. Ouais. En se disant, si tous nos sponsors commencent à partir, notamment Spotify, qui était un sponsor massif, qui est devenu un sponsor massif de ces festivals-là, on commence à avoir des soucis. Après, c'est intéressant sur un relais de croissance, en effet, de se dire que pourquoi pas être force de proposition sur, tu viens d'écouter Taylor Swift, elle passe à l'Accor Arena ce soir ou dans un an, prend des places. Encore faut-il que Spotify et que les streamers puissent faire des accords avec les tourneurs, Live Nation par exemple, pour pouvoir justement.
Ou prendre les places, ou retrouver les fans de Taylor Swift pour parler de son nouvel album, ligne.
Mais ça suppose de passer des accords et aussi. Du coup, des accords en matière de financement, qui gagne quel argent sur quelle place et quel billet vendu avec les tourneurs. Et ça, c'est pas tout à fait la même.
Est-ce que ça peut, enfin cette réussite, c'est-à-dire ce trimestre en tout cas rentable, peut aussi un peu plus réveiller les concurrents, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les Apple Music, les Amazon Music, alors ils jouent sur leurs autres pieds pour avancer dans la musique. Moi j'ai toujours été, je m'étais dit quand Apple a lancé son service de musique, je me dis c'est la fin quoi, surtout qu'on connaît le rouleau compresseur Apple, on imaginait Amazon Music, finalement ils vivent toujours. Alors certes il y a ces communautés qui peuvent peut-être exister à travers ça. Mais est-ce que là, cette concurrence, elle s'est pas vraiment réveillée, non?
Alors, ils ont apparemment entre une quinzaine de pourcents de parts de marché, chacun Amazon et Apple. Apple Music, ça fait longtemps qu'on en parle un peu moins, en fait. On ne sait pas trop ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent. Ils étaient moins bons que Spotify dans un premier temps sur justement cette intelligence artificielle, cette capacité de Spotify à proposer des morceaux. Parce qu'on dit que Spotify n'est pas assez en avant des petits artistes. Moi, tous les lundis matin, Spotify m'envoie ma playlist personnalisée et je fais énormément de découvertes. Mm-hmm. Donc là-dessus, mettre en avant des choses que je ne connais pas. Ils le font. Ce que faisait moins bien Apple.
Spotify, on le dit à Victoire.
Dans un premier temps.
Victoire à 10h, moi je suis Apple Music, comme voilà. Ça. Du coup, on est tous complètement.
Quant à Amazon, il y avait une interface vraiment de piètre qualité. C'était un service gratuit dans un premier temps. Sauf que la version gratuite était tellement médiocre que on n'avait pas envie de passer au payant, quoi. Voilà. Mm-hmm. Mais malgré tout ça, comme c'est gratuit et qu'ils ont des centaines de millions d'abonnés Prime dans le monde, fatalement ils attirent du monde. Puis derrière, après, il y a toujours dans le top 10 mondial, il y a toujours Deezer qui est, je crois, classé 9e en termes de part de marché. Est-ce que ça va réveiller le marché? Je pense qu'il s'est pas forcément endormi, mais
après,
dans l'économie du web,
quoi. Je pense à ces gros acteurs qui
comme souvent dans le web, on a un archi-leader qui a tendance à écraser tout le reste, et puis derrière, arriver à s'imposer, c'est pas facile. Apple, ils le font avec des coûts marketing, avec on achète un iPhone, on a 3 mois ou 6 mois
gratuit. Par ailleurs, ils peuvent les assurer.
Voilà. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi à devenir leader, et je crois qu'ils reculent toujours. Ils perdent du terrain sur Spotify.
Je suis la seule personne à acheter sa musique sur Apple Music, et voilà, et à payer pour ça, et j'en suis très heureuse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en matière d'innovation où justement des streamers aujourd'hui musicaux peuvent pouvoir miser. On a parlé de robots conversationnels ou d'algorithmes encore plus personnalisés pour pouvoir aller trouver le titre et se laisser aussi le choix de la découverte, ou aller chercher vraiment cibler une musique dont on a envie. Je crois qu'en ce moment, Spotify est aussi en train de faire un release d'un nouveau feature, pardon, je suis Jean-Claude Van Damme, c'est atroce, sur l'accélération de la musique, ou justement le fait de pouvoir la ralentir. Ça se fait beaucoup sur TikTok notamment.
Est-ce qu'on peut l'écouter à l'envers, ça?
C'est une très bonne demande.
La diapine à l'envers, il paraît qu'on entend des trucs.
Oui, complètement. Ça, j'ai des copains en matière de musique qui pourront te le dire.
Ils avaient aussi une application qui s'appelait AI DJ. Et qui est resté aux États-Unis. Enfin voilà,
ce qui est intéressant, c'est que sur justement la façon dont on va pouvoir interopérer du réseau social et du streamer musical, le fait d'accélérer ton morceau ou de le ralentir, qui est massivement utilisé déjà par des outils d'IA sur TikTok pour le coup, ou sur Instagram même aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que tu donnes le pouvoir à ton utilisateur quand tu es Spotify de pouvoir le faire directement. Donc potentiellement, en termes de droits d'auteur. et de partage de revenus, c'est aussi intéressant parce que les artistes ne s'y trompent pas et que leur musique accélérée, c'est pas du droit de citation. Quoi. Il y a une partie de propriété intellectuelle, que tu l'accélères ou que tu le ralentisses, le morceau, il faut quand même tout.
Il y a la question de la vidéo aussi, éventuellement du clip. Mmh. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, YouTube a une telle avance que. Mais c'est vrai qu'on a des micro-vidéos pour des artistes encore connus. Les paroles, oui, ça c'était une belle innovation, mais c'est vrai qu'on n'a pas de clip à proprement parler sur Spotify.
Et puis après, je pense qu'il faut aller interroger aussi des sociétés de gestion d'auteurs comme la SACEM par exemple, qui va te dire exactement son unité de mesure étant au stream, combien Spotify lui reverse en droit d'auteur.
Bon, en tout cas, on va suivre ça, on suivra le prochain trimestre, justement, on verra s'ils réussissent à maintenir cette rentabilité. Encore une fois, hein, ils ont eu quelques trimestres rentables, alors pas autant, ça n'a jamais dépassé, atteint les 168 millions d'euros, là, comme ce trimestre-ci, mais ils n'ont jamais eu une année complète hein, bénéficiaire, il faut le rappeler. En tout cas, voilà, on va suivre leurs évolutions. Tiens, je voulais revenir en France, justement, avec un sujet que je trouvais assez intéressant. Alors, tout le monde connaît Legrand, fabricant de matériel électrique. Alors, il est présent évidemment dans toutes nos maisons, les interrupteurs, etc. Il est très présent dans les hôpitaux. Ils ont créé une division qui s'appelait Legrand Care dans la e-santé. Et là, ils viennent d'investir pas moins de 500 millions dans une entreprise hollandaise, justement pour développer encore plus de produits. Alors, c'est vraiment dans la santé assistée à distance, etc. Et je me suis dit, tiens, voilà un Français qui ose aller plus loin encore, parce que 500 millions, il faut y aller quand même. L'entreprise fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont un peu moins de, ils sont 350 personnes. C'est depuis 2021 que Legrand s'est lancé là. Et je trouve que c'est plutôt diversification, innovation technologique. On voit un peu les tendances, vieillissement de la population, donc la démographie. On va être davantage chez nous, donc avoir tout ce type d'équipement. Il y a un vrai marché. Apple le joue sur une autre façon. Synergie sur les produits, hein, l'électricité, tout ça. Donc ça fait pas mal de choses, non?
Oui, et puis ils ont racheté aussi une entreprise indienne aussi qui fabrique, qui est aussi dans les data centers, parce que Legrand s'est aussi diversifié dans la fabrication de data centers. Hein. On parle de matériel électrique, donc Legrand est tout légitime pour aller sur ces marchés-là. Non, Legrand, c'est une très belle réussite. Ils sont de Limoges, il faut le souligner. Hein. Il y a pas, tout ne se fait pas à Paris dans l'univers de l'électrique, de l'électronique en tout cas au sens large. Et là, ils se diversifient sur des segments porteurs, la santé, tu disais, je crois. Innovation, voilà, l'entreprise néerlandaise. Voilà, alors 500 millions, ils n'ont pas officiellement communiqué, mais d'après Bloomberg, ce serait la somme déboursée. Alors 500 millions pour 60 millions de chiffre d'affaires, c'est vrai que ça peut faire beaucoup, mais c'est un marché à fort potentiel. Tu disais, c'est de la santé, c'est de la surveillance, je crois, de personnes âgées à distance, du partage d'informations aussi entre les établissements de santé comme les hôpitaux. Ouais. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est bien Legrand. C'est vrai que Legrand aurait pu continuer à vivre sur sa martingale des interrupteurs. On voit qu'ils se sont largement diversifiés et aujourd'hui ils sont présents partout dans nos domiciles sans savoir qu'on a du Legrand à la maison.
Impossible n'est pas français, si j'en avais peur en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en effet à quel point une société comme Legrand, qui il y a encore un peu plus d'une décennie était justement dans son couloir et dans son secteur, a pris assez vite en fait. Alors, rappelez-vous, il y a quelques années, on parlait de Smart City, de Smart Home, a pris justement assez vite virage.
Ils avaient racheté la société de Fred Potter,
me semble-t-il.
Oui.
Netatmo,
voilà, exactement.
Et en prenant justement ce virage-là, commence à se dire, ok, ça veut dire que.
Netatmo, qui était une caméra connectée, une caméra qui donnait différentes informations.
Entre autres, oui. Mais c'était vraiment cette idée-là. On était dans ce. Je ne sais pas si c'était une fantasmagorie, une utopie ou une dystopie, mais de se dire que la maison devenait. Et on n'était même pas encore à l'époque du Covid et on n'avait pas été confinés une fois dans nos vies. De se dire que la maison devenait un poste de surveillance intelligent de l'ensemble de nos vies. C'est à ce moment-là aussi qu'on a eu ce développement complètement dingue des assistants vocaux, des Alexa et autres marques d'assistants vocaux vraiment à la maison pour venir nous aider dans nos vies quotidiennes. Et finalement, ça donne des idées et on peut se dire qu'on ouvre l'univers des possibles, de la diversification, des investissements et se dire que finalement, tous les bâtiments, à un moment donné, vont devoir être smart, les hôpitaux aussi, et se dire que
c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de voir cette entreprise qui Limoges, Legrand, on a tout de suite l'image de ces interrupteurs et de les voir investir. C'est selon Bloomberg, c'est 500 millions, enfin en tout cas plusieurs centaines de millions.
Appuyer sur l'interrupteur de la diversification.
Oh là,
voilà,
bien joué.
C'est ce que vous dire.
Bravo.
C'est
assez digne de François Sorel. Victoire,
c'est une trajectoire, ça me fait penser à Air Liquide. C'est le même genre de trajectoire qui est allé sur la santé, l'aérospatiale, qui s'est diversifié. Peu de gens savent qu'Air Liquide œuvre dans le domaine de la santé. Non, je trouve ça assez intéressant. Après, le côté combattre les déserts médicaux en faisant des dispositifs qui se rapprochent des malades, bon, c'est pas nouveau. On n'a rien réinventé. Par contre, ce qui est intéressant dans la dynamique,
Quand on parlait de souveraineté tout à l'heure. Voilà, c'est un acteur français.
Un acteur français. Ah non, mais c'est très bien. Après, moi, je me souviens déjà, il y a 10 ans, quand j'ai commencé en RP, j'avais des clients qui faisaient des cabines médicales connectées dans les pharmacies pour les déserts médicaux. Donc là, c'est juste, on prend la cabine qui était dans la pharmacie, puis on la réduit, on cherche l'électricité, puis on va les mettre chez le patient, avec une population qui est par ailleurs en train de vieillir, des médecins qui sont de moins en moins en campagne, ça me semble être
C'était une diversification en tout cas à suivre. Je trouvais intéressant qu'on en parle ce soir. On termine, il nous reste un peu moins de 3 minutes avec Apple. Il faut bien en parler. On reviendra le 10 juin, il y a la WWDC, donc il y aura beaucoup d'annonces. Le 7 mai d'ailleurs, il y aura une annonce. Tim Cook a parlé, ce sera peut-être des iPads qui seront présentés. Mais en tout cas là, qu'est-ce qu'on voit? Les ventes d'iPhone en chute de près de 20% en Chine. Alors c'est vraiment un nouveau signal d'alerte quand même pour Apple. Et puis surtout, je trouve que c'est ça qui est important, c'est aussi les téléphones Huawei de l'autre côté, plus 70%.
Apple a perdu sa première place mondiale sur le trimestre précédent aussi. Là ils reculent fortement en Chine, ils sont troisième
maintenant,
c'est ça, derrière Vivo et Honor peut-être, qui est deuxième. Moi je pense qu'Apple, on en a déjà parlé des difficultés d'Apple, en tout cas de la certaine stagnation d'Apple. Apple, ça fait quelques années maintenant qui n'ont pas d'innovation de rupture. On les attendait avec quelque chose de nouveau sur le 15, peut-être de l'IA, bon, qui arrivera dans le iOS le prochain. Bon, quand on a aujourd'hui un Huawei en Chine qui arrive avec une puce maison innovante, et puis il y a l'engouement du public chinois pour cette marque nationale, je comprends que Apple perde du terrain avec un téléphone qui est toujours très bien, mais qui est toujours le même.
Et qui est toujours très cher.
Ouais, ils ont lâché sur le RCS et ça n'a pas servi à grand-chose, finalement.
Donc, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un nouveau signal faible d'Apple qui a un peu de mal avec l'innovation, qui a un peu de mal sur ce marché-là, qui Huawei a sorti des téléphones 5G. On sait que les Chinois sont très, même si on ne va pas revenir sur des puces 5G de ce téléphone.
Peut-être un problème un peu de gouvernance aussi. Enfin, Tim Cook, on sait qu'il arrive un peu en fin de parcours. On disait quand il a remplacé Steve Jobs, on disait il va gérer l'héritage, mais il ne va pas arriver à inventer l'après. Et bien, c'est peut-être ce qu'on voit aujourd'hui. Géré l'héritage, il a fait fructifier largement. En revanche, inventer l'après, bon, qu'est-ce qu'il y a eu sous
l'Artim Cook finalement? La voiture,
ça a raté. L'Apple Watch, c'est un succès, mais ça reste un petit marché de niche. Le casque, on attend de voir. Et l'iPhone, ça régresse. Après avoir fortement progressé, il faut dire aussi. On va voir sur plusieurs trimestres. Mais c'est vrai qu'on attend enfin une rénovation de rupture. Et c'était l'IA. On rappelle qu'Apple, quand même, ça fait depuis 2011, ils ont un agent conversationnel qui s'appelle Siri. Ils avaient la brique pour l'usage grand public. Il n'y a jamais eu l'IA derrière. Siri reste aussi bête aujourd'hui qu'au premier jour.
C'est ce que te dit Luc Julien en l'occurrence. Luc, qui du coup a programmé Siri, te dit Siri, c'est l'IA la plus bête du monde. Mais réellement.
Il me réveille le matin, cela dit. Voilà. Ça, il sait le faire. Mais
tu te fais réveiller par Siri le matin.
Et il me fait arrêter les œufs quand ils sont
bien au bout de 9 minutes. Merci à tous les trois, Marjorie Paillon, Victoire Rivaton et Fred Bianchi, pour tout ce débrief, tout ce parcours de l'actu tech du jour. Restez avec nous, on va partir en Inde dans un instant. Vous savez que ce sont les élections en Inde. L'occasion de faire un zoom un peu sur la tech en Inde. Et puis on ira après sur la Lune. Et oui, notre patrimoine culturel, informationnel va être envoyé sur la Lune pour qu'un jour des extraterrestres ou des humains qui se promènent sur la Lune redécouvrent un peu peut-être des airs entendus sur Deezer, sur Spotify. On verra tout ça. Ça s'appelle Sanctuary on the Moon. C'est un Français qui gère ça. Il a réussi à négocier avec la NASA. On va découvrir tout ça. Et puis, il y aura bien entendu le Tech Flash avec Léa Bénaï.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Merci d'être avec nous sur BFM Business. Il est 21h, le Tech Flash avec Léa Bénaïm. Bonsoir Léa.
Bonsoir Fred et bonsoir à tous. Et on commence par un prénom, Albert. C'est l'intelligence artificielle à la française dévoilée aujourd'hui par le Premier ministre. Une IA au service des Français, 100% souveraine. C'est la promesse de Gabriel Attal. Cette technologie a pour but de faciliter les démarches auprès de l'administration française, comme par exemple les agents du fisc qui reçoivent chaque année 16 millions de demandes sur leur site. Dans l'éducation, une autre IA nommée Aristote sera lancée à la rentrée. Elle proposera des quiz et des évaluations pour les étudiants. Le Premier ministre affirme par ailleurs que l'IA a déjà permis de détecter 140 000 fraudes et de récupérer 40 millions d'euros. Aux États-Unis, Amazon ferme son service de livraison par drone en Californie, un service qui existe depuis 2 ans nommé Prime Air. Il assure une livraison en moins d'une heure directement déposée dans le jardin par un drone autonome. Amazon n'a pas donné de détails sur les raisons de cet arrêt, mais on sait que les retours sont pour le moment assez mitigés et les trop nombreuses réglementations freinent le projet. Le service n'est pas mort pour autant, les tests continuent au Texas et Prime Air veut s'ouvrir à d'autres marchés. Amazon serait en ce moment même en train de négocier des accès à certains secteurs aériens auprès de la FAA, la Fédération américaine de l'aviation. Et Apple continue de perdre des parts de marché en Chine. Les ventes d'iPhone ont chuté de près de 20% ce trimestre, la pire performance depuis la crise du Covid en 2020. Il y a tout juste un an, Apple était le premier vendeur de téléphones. Il est désormais à la 3e place derrière Honor et Vivo et à égalité avec Huawei. Et en attendant, Apple a annoncé aujourd'hui un événement le 7 mai, sans doute pour dévoiler les nouveaux iPads. Et du côté, et toujours du côté de Cupertino, la popularité du Vision Pro s'essouffle. Selon Bloomberg, les demandes de démonstration en Apple Store sont en chute libre et les ventes ne représentent plus qu'une poignée d'unités par semaine. Conséquence directe, Apple a dû être plus agressif sur le produit en offrant une réduction sur le casque, un rabais qui était affiché tout en haut du site. Des chiffres qui confirment que la vente du Vision Pro en dehors des États-Unis n'est pas prévue pour tout de suite. Et pour finir, un nouvel épisode de votre rendez-vous jeux vidéo est disponible en podcast et en replay sur BFM Business et sur la plateforme Tech & Co. Et cette semaine, avec Mélinda Davansoulas, on parle de l'état du marché pour les PC gaming. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Les chiffres du sel sont tombés il n'y a pas si longtemps. On s'est félicité, le jeu vidéo français se porte bien. Plus de 6 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier. Mais il y a un petit bémol qui nous intéresse, c'est-à-dire que les consoles, ça repart à la hausse parce qu'évidemment il y en a un peu plus. Le marché du PC est un peu ralenti, notamment les ventes de PC, mais on sait très bien que les gens vont arriver à un moment où il faut renouveler le matériel. Est-ce que c'était une surprise qu'il y ait moins de ventes de PC ?
Non, absolument pas, parce qu'on est toujours tout simplement dans la correction post-Covid. Où on rappelle que en 2020, évidemment, ça a été les confinements, le besoin de télétravail. Du coup, tout le monde, enfin beaucoup de gens s'est équipé en matos à ce moment-là. Les ventes de PC et de composants PC ont explosé à cette époque. Et du coup, forcément, une fois qu'on a renouvelé son matos en 2020, on n'a pas forcément besoin de le renouveler dans les 4 ans qui viennent. Mais évidemment, ça va arriver là bientôt. 4 ans pour du matos PC aujourd'hui, c'est pas encore vieux. Mais on entre vers la fin de vie, on va arriver un petit peu, enfin, fin de vie c'est très vite dit, mais on commence à devenir un petit peu obsolète. Donc il va y avoir de plus en plus de gens clairement dans les mois et dans les années à venir qui vont réfléchir à mettre à jour leur matos clairement.
Voilà, tout connaître des jeux vidéo bien entendu sur la chaîne Tech & Co avec Mélinda Davansoulas. Allez, tout de suite, on part en Inde.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Vous savez qu'en ce moment, ce sont les élections en Inde. Alors, le président Modi est bien placé, mais enfin bon, il y a beaucoup de... On va voter sur plusieurs semaines. Hein. Il y a quand même plusieurs centaines de millions de personnes à faire voter. Donc, ça a démarré vendredi dernier, ça va se terminer au 1er juin. Et c'est l'occasion de revenir un peu sur ce marché indien, parce que justement, l'Inde, on le voit souvent comme sur au niveau tech, comme plutôt de l'offshore. Et puis non, peu à peu, on voit qu'il y a des usines de fabrication, de design, de processeurs. L'Inde est en train de monter en puissance. Et nous avons un expert pour en parler avec nous, Benoît Ranini. Lévy, bonsoir.
Bonsoir.
Président de TNP Consultants. Alors TNP, c'est un cabinet de conseil solidement implanté en France, en Europe, Moyen-Orient et en Inde. On va en parler dans un instant. C'est 1000 collaborateurs. Il y a trois pôles, hein, stratégie, trust et digital.
Tout
le
à
digital,
fait.
c'est ce qui draine un peu le chiffre d'affaires. C'est aux alentours de 130 millions d'euros.
Exactement. On a effectivement trois activités. Conseil ou direction générale autour de tout ce qui est définition des stratégies, de tout ce qui est merger and acquisition, trust pour tout ce qui est compliance et risque, et digital sur travailler sur la filière numérique, à la fois son contenant, la direction des systèmes d'information et du digital, et son contenu, les applications, la data, l'intelligence artificielle.
Et donc toutes ces grandes entreprises que vous accompagnez, il faut aller justement les accompagner à l'étranger, et notamment en Inde. Et c'était pour ça que je vous retenais, parce que TNP est présent en Inde depuis 2017, hein, donc ça fait déjà une belle expérience. C'est une centaine de consultants là-bas. Alors c'est dans les services financiers, l'accompagnement des grandes entreprises européennes et internationales là-bas, du conseil en stratégie management. Et alors, ma première question, c'est, on voyait l'Inde comme un pays du offshore, et en fait, c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui, hein, au niveau tech en tout cas.
Bah, déjà, l'Inde, c'est devenu une puissance économique mondiale.
Oui.
C'est devenu la cinquième puissance, ça a dépassé la France. Hein. Mm-hmm. L'Inde, c'est plus de 4000 milliards d'euros de PIB. Hein, c'est donc la cinquième puissance économique mondiale. D'ici, avant fin 2030, ça sera la troisième puissance économique mondiale, oui, puisqu'ils vont atteindre à peu près 6000 milliards de PIB. Donc, c'est-à-dire qu'ils seront juste derrière les États-Unis et la Chine. Et ils seront devant le Japon, devant l'Allemagne. Donc,
avec une population super jeune, 28 ans de moyenne
voilà,
d'âge.
On est à 1 milliard 4 de personnes, donc le pays le plus peuplé du monde. Et en fait, il faut avoir en tête que depuis maintenant 10 ans, sous l'impulsion du Premier ministre Modi, mm-hmm, il y a eu un énorme investissement, à la fois pour créer des infrastructures, puisqu'il y a eu plus de 70 aéroports montés, des centaines de milliers de lignes ferroviaires, des métros, des lignes des autoroutes. Et en fait, il y a aujourd'hui un pays qui a des vraies infrastructures et qui, par ailleurs, a lancé, sous l'impulsion de Modi, ce qu'on a appelé « Make in India », mm-hmm, c'est-à-dire une vraie stratégie de dire « on va devenir une alternative à la Chine » en tant que pays manufacturier. Mmh. On connaissait l'Inde, effectivement, tous connaissaient, on connaissait l'Inde sur une sorte de nation de offshore technologique.
Pour aller faire développer ses logiciels.
Ah, bah, vous avez Accenture qui a 1,5 million de personnes, Capgemini qui a 400 000 personnes en Inde. Enfin, toutes les grandes sociétés de services, plus les grands corporates européens et américains, ont créé depuis 20 ans des énormes centres de développement et de BPO pour créer des opérations. Depuis maintenant 10 ans, c'est en train de pivoter, mm-hmm, où l'industrie indienne, dans la pharmacie, dans ce qui va s'appeler le CPG, donc la grande consommation, dans le ferroviaire, dans l'aérien. Et c'est aussi pour nous, les Européens et les Français, des énormes opportunités de contrats. Et les entreprises françaises ont gagné récemment des très beaux contrats. On a parlé lors du dernier salon aéronautique, mm-hmm, de l'énorme commande d'Indigo. 500 commandes Airbus A320neo. On a parlé des commandes de Rafale. On a parlé aussi avant des commandes de trains et de métro. Mais il y a des énormes potentiels.
Et dans la tech aussi. Hein, donc, on sait qu'ils ont mis en place un système d'identité biométrique, hein, pour l'ensemble des habitants. Il y a un système de paiement aussi qui est, où on peut se payer d'habitant en habitant. Enfin, ils sont allés très vite aussi dans le domaine. Il y a un agent conversationnel. On parlait tout à l'heure de notre Albert en France. Ben, là-bas, ça fait un moment. Enfin, ça fait un moment. Ils en ont installé un. Enfin, voilà, ils avancent très fortement aussi.
Bah d'abord, comme vous le disiez, c'est une population jeune et en plus, c'est le pays qui fabrique le plus d'ingénieurs dans le monde.
Oui.
Donc chaque année, il fabrique plus d'ingénieurs que toute l'Europe réunie. Mm-hmm. Donc ça veut dire que la capacité qu'a encore l'Inde à innover, travailler sur les technologies de demain, l'intelligence artificielle, ça va rester un atout concurrentiel extrêmement fort. Et ça va rester un grand leader de la tech.
Et ils ont compris, parce que justement, on parlait de toutes ces forces en présence donc sur la partie logicielle. L'IA arrive, l'IA générative. On sait que l'IA... aujourd'hui, on évalue entre 15 et 20% de gains par rapport au développement. Mmh. Ça veut dire qu'il va falloir revoir. Ils sont déjà en train de bouger aussi.
Bien sûr, en fait. Mais nous-mêmes, on accompagne même des grands corporates européens ou des captives à commencer à transitionner vers l'IA. C'est-à-dire qu'on sait que ces gens qui étaient en partie sur du développement... simples, ou en tout cas du développement, vont être remplacés entre 20 et 50% par de l'IA. Mais c'est pas grave, ils sont très agiles, donc ils sont en train de se dire, ok, donc on va déployer de l'IA, mais donc on va créer des nouveaux métiers pour générer, en fin de compte, pour quelque part piloter l'IA, parce que l'IA, elle doit être aussi pilotée, elle doit répondre à un certain nombre de contraintes réglementaires, il ne faut pas oublier qu'on est soumis à l'Artificial Intelligence Act, c'est très très cadrant, la data privacy. Donc en fait, ils sont en train de faire pivoter une partie de leur workforce, qui était des développeurs, vers des métiers nouveaux, qui vont demain être autour des architectures et du pilotage des IA.
Et alors, vous le disiez, Benoît Ranini de TNP, l'Inde va devenir essentielle aussi dans le côté manufacturier. Ah oui. Alors, on regarde, on a parlé des avions et tout ça, mais si on regarde dans la tech, bah, c'est pas par hasard qu'on voit Tim Cook qui dit, tiens, moi, d'ici 2030, la moitié de mes smartphones, voire les deux tiers de mes smartphones, ce sera là-bas. C'est l'Inde va devenir essentielle dans le design de chipsets selon Qualcomm. Ah oui. Bah, voilà, ils sont en train de d'accélérer.
Déjà, on s'aperçoit que on avait un problème avec la Chine après un certain nombre d'événements, le Covid, petite tension un peu géopolitique. On s'est aperçu que tout sourcé en Chine, ça posait un problème de souveraineté. Donc il y a beaucoup de pays, dont la France, dont l'Europe, sont dit on va repenser notre souveraineté, on va repenser nos chaînes de valeur et on va réinternaliser un certain nombre d'actifs industriels sur le territoire. Après, on a un problème de compétitivité. Donc il y a des choses qu'on pourra réinternaliser sur le territoire européen ou français. Il y a des choses qui resteront plutôt, qui seront relocalisées soit en Inde, soit par exemple au Maroc, qui va être aussi une localisation extrêmement courue dans les prochains mois pour réindustrialiser le tissu, on va dire, qui va quitter la Chine. Mm-hmm. En revanche, quand on regarde maintenant les produits, il y a de plus en plus de technologies dedans, il y a de plus en plus de software, on appelle ça, c'est embedded. Oui. Donc, le fait d'avoir déjà en Inde la capacité à créer du soft, les talents à fabriquer du soft, en plus d'avoir une capacité à faire du manufacturing, ça les rend extrêmement forts. Parce qu'ils vont, ils vont pouvoir bénéficier du savoir-faire qu'ils ont acquis depuis des années sur le soft, le logiciel. Et maintenant qu'ils commencent à devenir aussi bons dans l'industrie, ils vont pouvoir faire converger ces deux mondes-là et devenir un des grands leaders du futur manufacturing.
Mmh. Donc c'est pas bon. C'est bien pour ça qu'on voit tous ces acteurs importants, les Google, les Samsung, les Apple. Là-dedans, la France, elle a sa carte à jouer évidemment, les relations
franco-indiennes. Nous, on est convaincus, c'est-à-dire que nous, depuis 7 ans, depuis qu'on s'est installé en Inde, pourquoi ? Pour accompagner les grandes sociétés françaises ou européennes qui veulent se développer en Inde. Et on est fortement en proactivité pour leur expliquer à tous ces grands industriels français ou même les grosses ETI, qui a un énorme marché en Inde. Parce qu'aujourd'hui, il y a une classe moyenne de plus de 300 millions de personnes.
Oui.
Donc ces gens-là,
qui était la classe moyenne chinoise il y a 10 ans. Quoi.
Nous, on s'est installé en Inde parce qu'il y a des constructeurs français qui nous ont demandé de les aider pour se développer en Inde. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais après, les constructeurs automobiles, il y a eu l'industrie aéronautique qui s'installe. Maintenant, moi, je suis convaincu qu'il y a une énorme opportunité dans l'industrie du luxe, parce que la classe moyenne indienne et puis les gens qu'on on va dire les gens qui sont à bon revenu en Inde, il y en a de plus en plus, c'est comme tout le monde, le nombre de riches et de gens qui ont des bons revenus dans le monde ne fait que croître, et en Inde c'est encore plus vrai parce qu'il y a c'est un family business qui s'est fortement développé, il y a des gens qui ont des entreprises de très belle taille,
les Tata, les
Infosys sont Adani, il a un groupe, un conglomérat extrêmement puissant dans l'énergie et dans un certain nombre de domaines, donc il y a des gens très riches, mais en plus de ça il y a une classe moyenne. Cette classe moyenne là elle va être très friand de produits que sont capables de faire les Français ou les Européens dans le luxe, dans l'agro-business aussi.
Alors, juste un mot aussi sur la partie RSE, parce que justement, c'est ce qu'on regarde. On voit que les Chinois, alors, continuent avec du charbon, mais bon, les échéances à court terme, non. Eux, ils se projettent à 2070. L'Inde aussi est en train de faire de gros efforts dans ce domaine.
Ah bah, énorme.
Qui allait souvent avec,
alors, aujourd'hui, c'est vrai que l'Inde est encore très fortement liée au charbon, au pétrole, au gaz. Mais en revanche, là aussi, sous l'impulsion du Premier ministre Modi, il y a un énorme plan de transition énergétique où ils ont investi fortement dans le solaire, mais aussi dans l'éolien. Il y a un énorme projet entre une entreprise d'énergie et Total sur l'hydrogène vert. Et puis, il y a l'énorme sujet des EPR d'EDF, qui devrait pouvoir se signer, on l'espère tous, bientôt, l'équivalent de une dizaine de gigawattheures.
Oui.
Donc c'est 6 EPR de dernière génération. Donc c'est-à-dire que le mix énergétique indien est en train de rapidement transitionner vers quelque chose de vraiment green, à la fois sur de l'hydrogène vert, de la photovoltaïque et du nucléaire. Et ça, ça va se faire d'ici 2030-2035.
Et en plus, là, pour bien comprendre l'enjeu de ces élections, on a le Premier ministre Modi qui a vraiment mis cette IA, cette techno, c'est au cœur de sa politique, hein, même de son programme électoral.
Oui, oui. Bah, d'abord, ils sont un peu geeks dans l'âme.
Oui.
Donc ils aiment bien tout ce qui est digital, ils ont tous des smartphones, ils ont tous des IA. Et je crois que c'est un peuple qui a aujourd'hui une très grande culture, qui a aussi une très grande ouverture vers le monde, parce que, par exemple, la relation entre l'Inde, la France, l'Inde et l'Europe est plutôt très bonne. Hein. Mm-hmm. Ce sont des non-alignés, hein. Ils veulent être ni côté américain, ni côté chinois, ce qui nous va plutôt bien.
En plus, c'est un pays-continent, c'est plein de pays.
Ah oui, bah, d'abord, c'est pas un pays, c'est un continent.
Oui.
Moi, je considère qu'il y a un grand parallèle, par exemple, entre l'Afrique et l'Inde. C'est à peu près la même taille, mais la même diversité. Quand vous allez au nord de l'Inde ou au sud de l'Inde, on ne parle même pas la même langue.
J'ai vu, si on prend deux Indiens, il y a 36% de chances qu'ils parlent la même langue.
Ouais. Et puis, il y a une énorme diaspora. Nous, on a ouvert récemment le Middle East, parce que ce sont nos clients indiens qui sont partis à Abu Dhabi ou à Dubaï dans le Moyen-Orient, parce que maintenant tous les white collar sont indiens. C'est pareil aux US. Vous allez maintenant dans la Silicon Valley ou même à New York dans les grandes banques, une grande partie du board sont des Indiens.
Satya Nadella, Sundar Pichai,
voilà. Donc il y a une énorme diaspora.
Eh bien, merci Benoît Ranigny d'être venu nous parler de tout ça, président de TNP Consultants, donc présent évidemment en France, mais très présent aussi, de plus en plus présent en Inde, on l'a bien compris, et puis au Moyen-Orient. Merci d'être venu nous éclairer sur
merci beaucoup,
ce qui se passe en Inde. Et tout de suite, notre chronique avec Tech & Co. Tiens, on va parler de Atari et de Infogrames. Eh bien, oui, on va revenir en arrière, mais aussi se projeter dans l'avenir, vous allez voir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Avec Pierre Bergessia, bonsoir Pierre.
Bonsoir Frédéric.
Alors justement, on va parler d'Infogrames. Alors c'est une des marques que les jeunes de 20 ans, enfin si les jeunes de 20 ans la connaissent un peu, parce qu'elle a disparu en 2003.
2003.
Ouais, 2003. Voilà, c'est quand même, oui, jeunes de 20 ans, ouais. C'est jeunes de 30-40 ans ont bien connu. Et elle fait son retour sous la forme d'un label. Alors explique-nous ça.
Alors complètement, c'est une bonne nouvelle, surtout pour les nostalgiques de jeux vidéo.
Oui.
Je vais vous citer quelques titres, ça a rappelé de bons souvenirs. Alors, plutôt pour vous que pour moi. Alors, je vais vous citer Virali,
oui.
Civilization 3 ou Alone in the Dark. Tout ça, c'est Infogrames. Infogrames, c'est la contraction de informatique et programme. Exactement. C'est une entreprise qui a été fondée en France, Cocorico, en 1983, par Christophe Sapé et Bruno Bonnel, qui, pour l'anecdote, est en fait aujourd'hui secrétaire général pour l'investissement au sein du gouvernement. Voilà.
Et alors, pourquoi elle avait disparu, Infogrames, alors ?
Alors, c'est une entreprise qui a disparu à cause de mauvais choix, de mauvais choix à la fois financiers et à la fois en termes de développement de jeux vidéo. C'est dommage, parce que c'est quand même une marque qui a imprégné les années 80 et 90 avec des jeux cultes, mais aussi, comme je l'ai dit précédemment, des moins bons jeux. Et en 2002, très concrètement, l'entreprise était dans le rouge. On parle même d'une dette qui dépassait les 580 millions d'euros. Du coup, Infogrames a été obligé de fusionner avec Atari.
Oui, Atari, qui est aussi une vieille marque de l'informatique, qui est revenue.
Mais à l'époque, il y avait vraiment le vent en poupe, et d'ailleurs, ça les a un peu sauvés.
Et donc là, retour en force du label Infogrames. Pas encore une entreprise, c'est un label, mais qu'on voit revenir ces jours-ci.
Exactement, parce que concrètement, ils font leur retour sous la forme d'un, je cite, label d'édition, ce qui veut dire qu'ils sont toujours sous l'égide d'Atari, mais ils vont pouvoir chapeauter un peu de nouvelles sorties qui font référence à leurs jeux précédents.
Bon, on n'a pas encore les jeux, non, c'est
non
ça.
Pour le moment, on ne sait pas encore les jeux qui vont avoir le petit logo, vous savez, avec le tatou arc-en-ciel sur leur jaquette.
Voilà, et bien pour les jeunes de 40 ans, vous allez revoir Infogrames revenir avec nous. Merci Pierre Bergessia, Tech & Co. Évidemment, vous retrouvez toutes ces infos sur le site techandco.com. Allez, tout de suite, on va partir sur la Lune.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Notre invité Benoît Fevelet, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur, fondateur de Sanctuary on the Moon. Le principe, c'est de faire d'envoyer un bout de notre patrimoine sur la Lune. Alors un bout, c'est un tout petit bout physiquement, hein, puisque ça va faire c'est une boîte à chaussures. Enfin, c'est ça.
Le conteneur en lui-même, il n'est pas encore dessiné. Mm-hmm. Il devrait être dessiné dans les prochains mois. Enfin, du moins son commencement.
C'est le contenu qui est important.
Et c'est le contenu évidemment qui est important. L'idée, c'est de sanctuariser sur la Lune un bout de notre humanité, de ce qu'on est pour l'éternité. Donc, c'est l'essence de notre humanité laissée pour l'éternité.
Alors, comment vous avez fait le tri ? Alors, je sais que vous avez travaillé avec beaucoup avec des chercheurs, des scientifiques. Alors, il y a CNRS, INREA, l'UNESCO. Il y a des artistes, il y a des philosophes. Voilà, comment on fait le tri déjà des infos de ce qu'on va laisser ? On verra après quel est l'objectif derrière, mais de ce qu'on va laisser comme patrimoine culturel, informationnel.
Alors, tout d'abord, là, il y a une équipe qui s'est constituée de façon un petit peu informelle avec des astrophysiciens, des paléontologues, donc des scientifiques, physiciens des particules, spécialistes du big data, des graphistes, avec une équipe de Français, Européens, Canadiens, Américains. L'équipe est en train de s'agrandir. Et pour commencer, je me suis surtout inspiré d'un projet qui s'est passé il y a plus de 50 ans, donc mm-hmm. qui s'appelait le Golden Record de disques qui étaient envoyés sur les Voyager.
Carl Sagan. Voilà, j'ai cherché.
Et donc, j'ai suivi un petit peu quelque part ces recommandations qui sont dans un livre mm-hmm. et qui s'appelle Murmurs of Earth, qui raconte la genèse du Golden Record. Et donc, je me suis inspiré du passé, des projets passés, avec les outils du présent, tout en ouvrant une archéologie du futur. Et donc, des ateliers ont été organisés à Paris et dans la région parisienne avec ces 14 graphistes. Et puis, on a commencé à poser des contenus. Qui selon une petite équipe mérite d'être sauvegardée pour un très 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 long.
Et donc là vous avez un exemplaire parce que c'est 24 disques de ce type, c'est ça ?
Exactement, donc c'est des disques en saphir oui. qui ont été gravés, il y en a 8 sur les 24, on emportera 24 disques.
Là vous travaillez avec le CEA pour ça, c'est ça ?
Exactement, le commissariat oui. de l'énergie atomique, mais aussi une TPE à côté de Grenoble pour la gravure de ces disques. Sur ces disques, donc, c'est de analogique, ce qu'on peut voir à l'écran, donc c'est des images ou des qui vont jusqu'au micromètre. Mm-hmm. Donc c'est très très petit, on peut mettre entre 3,4 et 7 milliards de pixels par disque, ce qui fait beaucoup. On aura environ une centaine de milliards de pixels qui seront embarqués. Et voilà.
Il y aura même deux génomes humains. Voilà,
Sanctuary, pour résumer, c'est un triptyque. Donc, c'est une œuvre qu'on pourrait diviser en trois parties. Et ce que l'on est avec deux génomes qui ont été tirés au hasard, ce qu'on appelle en double aveugle au Michael Smith Genome Center de Vancouver. Mm-hmm. Il y aura donc de la science regroupée autour de 5 thèmes, que sont la vie, l'eau, la matière, l'espace et le temps. Et puis, donc là, il y a encore des disques autour de l'art. Et donc, on a annoncé un partenariat, une conférence à l'UNESCO directement, parce qu'on va y emmener mmh. aussi l'intégralité du patrimoine mondial de l'humanité, mais aussi de la musique, une curation d'art donc qui s'étalerait du paléolithique jusqu'à l'art contemporain et qui couvre les 5 continents.
Et alors, on pourrait dire, vous êtes parti convaincre Elon Musk, donc vous avez convaincu directement la NASA, hein, c'est ça ?
Ben, c'est ça. Donc, on a fait une première version du projet qu'on a présenté donc entre 2017 et 2020. Et en 2020, on pensait le projet suffisamment abouti pour pouvoir le présenter à la NASA et on a contacté avec un Américain qui est aussi contributeur au mm-hmm. projet, donc le chef de la science de l'époque, donc il y a 4 ans, et puis il a été assez bluffé. Je pense que si la NASA a retenu le projet, donc le mm-hmm. premier en plus de 50 ans depuis oui. le Golden Record, c'est surtout parce qu'on a fait de la création originale et oui. ça la NASA s'y attendait pas, quoi.
Et donc, alors ça décollera en 2027, enfin si tout se passe bien, 2027 dans le programme Artemis. Et le but, c'est quoi ? Comment on se dit, tiens, cette technologie, alors c'est prévu pour être posé sur la Lune, et puis un jour, voilà, des civilisations, peut-être humaines qui vivront sur la Lune, peut-être extraterrestres s'il en existe, pourront accéder. Comment on sait qu'ils pourront lire ce genre d'informations ?
Tout d'abord, on a fait le pari d'une technologie qui est analogique, donc qui peut être décodée avec des yeux ou une loupe, mm-hmm. contrairement au numérique qui nécessite un lecteur. Ouais. Et donc, ça implique d'envoyer aussi une technologie afférente pour pouvoir décoder l'intégralité des disques. Et puis, vous l'avez dit, pourquoi ? Évidemment, il y a une possibilité infime que Sanctuary soit un jour découvert.
Oui, mais regardez les bouteilles à la mer, on en retrouve parfois.
Exactement, mais il y a toujours cette part de rêve et on pense que ce qui est encore plus fédérateur, c'est les contenus qu'on dévoilera donc quelques temps après le décollage, et peut-être même avant, et qu'on pourra ensuite exploiter autour de conférences, d'expositions,
ça,
de concerts.
Ça pourra inspirer des générations.
Exactement.
Sur tout ça. Alors, autre question, pourquoi la Lune ? Pourquoi pas sur un satellite qu'on lance un peu comme Elon Musk qui avait lancé sa Tesla un peu au loin ? Bon, on risque qu'elle se désagrège un jour, mais pourquoi la Lune ? Pourquoi pas quelque part sur la Terre, qui un jour sera une étoile morte ?
La Lune... pour une raison, j'ai envie de vous dire une raison très simple, mais non, il n'y a jamais de raison très simple quand il s'agit de l'espace. C'est tout d'abord parce que elle est toujours là, dans le ciel. C'est le satellite naturel de la Terre. Mm-hmm. Et une autre raison, c'est que la Lune a un environnement qui est extrêmement stable. Et donc, il n'y a pas de tectonique, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de pluie.
Pas d'érosion,
et donc, tout
y a pas
le matériel laissé à sa surface restera intact pour des dizaines de millions d'années. Oui. Donc, des centaines de millions d'années. Pour extrapoler le futur, pour avoir une compréhension de ce que veulent dire ces échelles de durée. Mm-hmm. Moi, j'aime bien dire qu'il faut aussi regarder le passé. Il y a 2000 ans, on parlait, c'est le christianisme. Il y a 5000 ans, c'était les pyramides d'Égypte. 17000 ans, c'était la grotte de Lascaux. 34000 ans, la grotte Chauvet. Et il y a 3,2 millions d'années, c'était Lucie l'Australopithèque dans les savanes en Afrique. Ouais.
Et donc, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y a ce projet concret hein, d'envoyer ce mais le but, c'est aussi, voilà, vous l'avez dit, c'est une œuvre, c'est aussi, voilà, faire des conférences et raconter un peu, parler de notre patrimoine, qu'il soit scientifique, qu'il soit artistique, qu'il soit culturel.
Bah exactement, je pense que c'est une œuvre aussi qui est pluridisciplinaire avec différentes personnes qui travaillent sur ce projet. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes. Qui travaille sur ce projet.
C'est financé comment ?
Alors donc il y a eu du love money pour l'amorçage. On a eu un petit peu d'argent public et puis un énorme apport à l'industrie de la NASA qui nous assure pas un lancement mais deux lancements. Donc avec un lancement en backup si la première mission venait à échouer.
Eh bien, on suivra tout ça. Merci Benoît Fèvelet. Vous êtes ingénieur fondateur. Ça s'appelle Sanctuary on the Moon. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, vont aller regarder sur Internet un peu ce projet un peu fou, mais voilà, qui nous a intéressés et qui continuera, bien entendu, à nous intéresser pendant, on l'espère, des millions d'années. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit. D'ici là, les podcasts, les replays, retrouvez-nous sur BFM Business et sur notre site bfmbusiness.com.